Religion du monde, Geneviève Delrue.
Noël, c'est toujours Noël. Et on va le faire aussi cette année. Nous avons grand espoir dans la solidarité de beaucoup de gens autour de nous. Et nous allons faire tout pour fêter Noël comme il le faut. Nous avons l'expérience des années précédentes. Si l'année dernière, nous avions pu préparer, par exemple, des repas chauds, ce ne sera pas le cas cette année. Souvent, il n'y a pas d'électricité, donc elles n'auront pas la possibilité de chauffer. Mais nous allons préparer d'autres choses parce que la fête, c'est la fête. On a envie de fêter pour une nuit au moins, d'oublier peut-être et de permettre au Seigneur que ce soit lui la fête.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors que le Liban s'enfonce chaque jour un peu plus encore dans la crise économique et la pauvreté, comment le pays s'apprête-t-il à vivre ce temps de Noël? C'est le reportage de Religion du Monde ce dimanche avec Laurence Faure, notre invitée. Bonjour Laurence.
Bonjour Geneviève.
Vous revenez d'un périple au Liban pour faire le point sur les projets de reconstruction et de soutien à la population menés par l'Œuvre d'Orient, impliquée comme d'autres associations dans l'aide d'urgence et l'assistance aux initiatives locales. Alors vous êtes allée, Laurence, dans ces lieux de reconstruction et à la rencontre de la société civile et de personnalités religieuses comme Monseigneur Essayant, évêque pour les catholiques latins du Liban, que nous venons d'entendre. Quels sont les lieux que vous avez visités, Laurence?
Oui, donc les lieux visités, c'était des projets essentiellement donc à Beyrouth, en particulier dans le quartier du port de la double explosion du 4 août 2020, à la rencontre en fait de personnes œuvrant dans des infrastructures telles que des hôpitaux ou des écoles qui ont été très touchées par l'explosion et dont les cicatrices sont encore très visibles aujourd'hui. Et je suis également allée à Tripoli, donc nord Liban, proche de la frontière syrienne, qui est une ville très touchée par l'impact de la crise économique et également par la crise syrienne.
Alors, on sait que le travail des associations actuellement est essentiel face à la faillite de l'État. Et vous êtes allée à la rencontre de l'association Libami, qui est une association soutenue par l'Œuvre d'Orient, une association de quartier qui a été co-créée par Noad Azi,
la cofondatrice de cette association, qui est installée donc dans le quartier de Naba, qui est un quartier connu à Beyrouth pour être un quartier où vivent des familles particulièrement défavorisées. Beaucoup de personnes de l'association, les assistantes sociales notamment, disent que la pauvreté a changé.
Oui, c'est ça. Avant, effectivement, au départ, c'est ce qu'elle va nous expliquer, c'était une association de soutien scolaire, par exemple. Là, aujourd'hui, c'est nourrir les enfants. On l'écoute.
Notre objectif, c'était au début de scolariser les enfants. Mais maintenant, notre priorité, c'est de leur donner à manger. Depuis un an et demi, vraiment, les gens ont faim. Et ceux qui disent qu'il y a de l'argent dans le pays, les restaurants sont pleins, qu'ils viennent voir ce qui tape à notre porte. On a des mamans et des papas qui mangent une seule fois par jour la moitié d'un repas pour garder à leurs enfants pour les trois repas ou deux repas. Quand une maman appelle, elle envoie un voice message, je peux vous le faire lire. Aujourd'hui, j'ai fait des sandwichs avec de l'huile que vous nous avez donnée. De l'huile. J'ai mis un peu d'huile, un peu de sel et j'ai donné à mes enfants des sandwichs. Vraiment, on est arrivé à un stade que personne ne nous écoute. Malgré que je suis libanaise, j'adore le Liban, mais je peux dire que nos responsables n'écoutent même pas les nouvelles à la télé. Ils ne regardent rien. Ils habitent chacun dans son palais en or. Notre Liban a de l'argent. On n'est pas des gens pauvres, mais on est des gens volés. Volés par nos responsables. Je le dis haut et fort.
Alors Laurence, vous êtes allée dans plusieurs écoles, notamment celle des Trois Docteurs. Alors c'est une école grecque-orthodoxe. assez ancienne puisqu'elle remonte au 19e siècle et elle est près du port, donc tout près de l'explosion.
Et voilà, exactement, elle est tout près de... Elle a été en fait en très grande partie soufflée par la double explosion donc, du 4 août 2020. En fait, sur place, c'est assez intéressant parce qu'on voit en fait l'école à la fois en reconstruction, donc on entend marteau, piqueur et outils de réparation, et en même temps, on voit toutes les décorations de Noël qui ont déjà été mises. Voilà, donc à la fois les bâches bleues de la reconstruction de la cour intérieure, notamment de cette école, effectivement, au style ottoman, et à la fois, voilà, on sent la reprise dans un contexte qui reste, en fait, complexe.
Alors, sa directrice, Neira Daoun, vous a expliqué comment ils allaient fêter Noël.
Cette année, ça va prendre, je pense, une ampleur plus grande, où chacun va essayer de contribuer de ce qu'il peut pour aider les autres, que ce soit en nourriture, que ce soit en jouets, et selon un principe où on utilise le matériel qu'on a, on essaie de recycler du matériel, on essaie de ne pas dépenser de l'argent sur les choses inutiles. Et c'est une approche qu'on fait passer à nos élèves. Et je pense que dans les familles, c'est ce qui va arriver. Donc les cadeaux vont être plutôt des choses dont on a besoin. Mais on va certainement fêter Noël. Et beaucoup dans les familles chrétiennes, mais je dois vous dire qu'au Liban, tout le monde aussi participe un peu à la fête de Noël. Donc même les familles non chrétiennes sont conscients de cette fête. Parfois, ils décorent leur maison et parfois, ils participent à l'effort de solidarité.
Et on parle beaucoup, on entend dire qu'il y a la faim qui est arrivée au Liban, que les gens manquent de nourriture. Est-ce que vous le constatez ?
Je le constate en ville beaucoup. À l'école, jusqu'à présent, ça va, c'est-à-dire nous ne constatons pas qu'il y a des élèves qui ont faim, mais nous constatons certainement que la nature des goûters que les enfants apportent à l'école est différente de celle qu'on voyait dans les années précédentes. On voit moins de friandises, on voit moins de fromage peut-être cher dans les tartines, etc. Mais c'est sûr que dans la ville de Beyrouth, la faim est ressentie. Nous, dans notre archevêché, il y a une association qui distribue des caisses alimentaires et je ne pense pas que nous sommes les seuls à le faire. Il y a un grand effort de la part de toutes les associations au Liban de prioriser les caisses alimentaires sur autre chose avec les femmes.
Laurence, vous avez voulu lui poser la question du traumatisme de l'explosion du 4 août. Vous le sentez, ce traumatisme ?
Oui, en effet, c'est vraiment une des choses qui m'a frappée le plus en discutant avec les gens au profil varié. C'était que, en fait, cette explosion, cette double explosion avait eu lieu il y a 1 an et 4 mois. Quand je disais 1 an et demi, les gens me reprenaient en me disant que c'était il y a 1 an et 4 mois. Et en fait, tous m'ont dit que c'était voilà, quelque chose encore de très présent, inimaginable, inexplicable, etc. Que le traumatisme reste.
On va écouter Neira Daoun, précisément, donc directrice de l'école des trois docteurs donc sur le port de Beyrouth.
Il y a toujours un traumatisme parce que nous n'avons pas dépassé cette explosion. C'est-à-dire que encore les Libanais ne savent pas quelle est la cause exacte, qui a fait cette explosion et comment on va gérer, la justice va gérer. Donc ça ajoute au traumatisme. Il y a le traumatisme réel d'avoir eu très peur, d'avoir eu des parents blessés ou bien décédés. Et il y a ce processus de dépasser, de deuil un peu de cette explosion qui n'arrive pas à se faire parce que ça reste un peu le grand mystère et qui cause beaucoup aussi de tiraillements politiques, comme vous le savez, sur la scène libanaise, et ça n'aide pas. Donc ça crée une frustration qui fait qu'on n'arrive pas à dépasser cet événement.
Alors, Laurence Faure, il y a un reportage coup de cœur, si je puis dire, que vous avez réalisé à Beyrouth. C'est celui de la cantine de Marie, une cantine créée par un prêtre, le père Anitok, créée donc après l'explosion du 4 août. Racontez-nous.
Oui, tout à fait. Donc, le père Anitok est quelqu'un qui est très attachant et très édifiant aussi parce que en fait il est un peu signe en fait d'une certaine résilience des Libanais. Il a monté donc cette cantine 10 jours après seulement l'explosion pour toutes les personnes qui avaient perdu leur maison pour pouvoir leur donner à manger. Il a commencé à créer cette cantine en fait avec sa famille en faisant à manger chez lui le soir tard pour amener des repas chauds le lendemain aux personnes. Et depuis, la cantine s'est développée. Et aujourd'hui encore, elle sert aux personnes qui habitent dans le quartier ou qui travaillent dans le quartier du port, qui sont touchées, voilà, encore une fois, par les nombreux impacts de cette crise sur les familles et les personnes. Et ce qu'il y a vraiment de frappant, en fait, dans cette cantine, c'est que pour le père Annie, c'est un hommage, en fait, à toutes les personnes qui sont mortes dans l'explosion. Donc, en fait, tous les portraits, mais pas du tout d'ailleurs de façon, j'allais dire, mortifère, mais tous les portraits des
disparus.
Tout sourire d'ailleurs des disparus sont mis là en hommage. Et c'est extrêmement fort comme image, en fait, de voir, quand on arrive dans la cantine, tous ces portraits des quelques 260 disparus dans l'explosion.
On écoute le père Annie Toc.
Oui, ce sont les photos des martyrs et des victimes qui ont été tuées lors de l'explosion du 4 août 2020. Donc parmi eux, il y a des amis proches, comme Jonoun, comme Ralph. Il y a encore Mary qui était dans la même classe avec moi, c'est une cousine. Donc il y avait encore Alexandra, la petite fille de 3 ans et demi. Elle était le symbole de la révolution, de la manifestation qui a été eue au Liban. Et il y avait plusieurs personnes qu'on a travaillé ensemble. On a une tradition au Liban, lorsqu'on fait la commémoration des morts ou bien de martyrs, on distribue quelque chose à manger. C'est pour cela, à chaque fois, chaque jour qu'on distribue les plats ici, on dit pour les gens qu'ils prient pour le repos de leurs âmes.
La cantine, elle est gratuite ?
Complètement gratuite, complètement, jusqu'à maintenant. Donc ça fait 1 an, 4 mois, c'est complètement gratuit. On a commencé avec 100 plats. Actuellement, on distribue entre 800 et 850 plats. Parfois, on arrive jusqu'à 1000, mais le moyen, c'est 800 et 850 plats. On a 3 centres de distribution. Un centre à Badaro, c'est une région pas loin d'ici. Un centre à Bouchhamoud Navar, c'est une sorte de bidonville. Donc, il y a un centre à Achrafieh. Donc, on a 3 centres de distribution et on a la cantine ici qui est ouverte à tout le monde, sans exception.
Comment ça va se passer Noël?
On a une semaine d'activité ici, donc toute la semaine du Noël. On va faire des plats à l'extérieur, juste dans la place, juste à côté de l'église. On invite les enfants, on a encore parlé avec quelqu'un qui va faire le Papa Noël, avec encore une chorale qui va chanter, avec quelqu'un encore qui va faire des chants folkloriques, des chants traditionnels. On va faire encore une activité avec un groupe qui fait des activités pour les enfants, des bricolages, comme ça. Donc c'est toute une semaine d'activités.
On va aller avec vous, Laurence Faure, à présent à Tripoli, donc au nord du Liban, près de la frontière syrienne. Et là, vous avez rencontré le père Georges Gérège, qui est un prêtre maronite, père de 4 enfants, qui est le directeur de l'école francophone Al-Matra Al-Raïa. Et avant de l'écouter, quelques mots sur les écoles francophones du Liban, Laurence Faure.
Oui, alors en fait, c'est un des grands projets de l'œuvre d'Orient depuis 2 ans. C'est de soutenir en fait la francophonie au Moyen-Orient par le biais du réseau éducatif, en partenariat avec l'État français d'ailleurs, qui soutient la francophonie. L'œuvre d'Orient a recensé en fait 330 écoles francophones chrétiennes au Liban que l'association peut soutenir. Et donc, il y en a environ 115 à 120 qui ont été soutenues plus particulièrement par le fonds donc, créé en partenariat entre l'œuvre d'Orient et l'État ces derniers temps, ces 2 dernières années, en lien donc avec la crise de l'explosion et la crise économique et politique au Liban.
Et la pérennité de ces écoles, c'est fondamental pour l'équilibre du Liban.
Voilà, exactement. Souvent, ce sont des écoles en fait, qui accueillent diverses... Ce sont des écoles chrétiennes, effectivement, francophones, mais qui accueillent en fait, toutes les religions et toutes les communautés. Donc souvent, en fait, elles œuvrent pour la mixité sociale et religieuse et donc sont particulièrement importantes à ce niveau-là. Et d'ailleurs, l'école de Tripoli en est la preuve parce que, donc, comme plusieurs écoles chrétiennes maronites de Tripoli, ces écoles scolarisent en fait, quasiment 100% d'élèves musulmans.
Et bien précisément, on va écouter son directeur, hein, le père Georges Gérège.
C'est une école chrétienne maronite. Quand elle a été fondée, on avait des chrétiens, mais puisque les chrétiens n'habitaient plus ici, on a considéré que Dieu nous a laissés ici pour compléter une mission précise, la mission d'éduquer et de joindre les cœurs et de travailler avec ces gens qui vivent encore ensemble. Pour cela, on complète notre mission avec les gens. On ne pense ni à leur religion, ni à leur couleur, ni à leur langue, ni à leur origine, puisqu'il y a des gens qui sont originaires d'autres pays, qui viennent de la Syrie, les Alaouites, beaucoup d'eux. C'est là notre mission ici aujourd'hui.
Vous allez préparer Noël avec des élèves musulmans. Comment ça va se passer ?
Oui, chaque année, comme vous avez voyé, dans les classes, il y a le sapin de Noël, il y a la crèche dans l'école, il y a le Père Noël qui vient encore pour distribuer des cadeaux. Et chaque année, ils attendent la fête de Noël. Mais puisque nous sommes une école où il y a des musulmans, on fait pas seulement la fête de Noël, les fêtes chrétiennes. On célèbre les fêtes chrétiennes, la fête de Noël, la fête de Pâques, et on célèbre les fêtes musulmanes. On fait encore pendant le carême des musulmans des fêtes le soir ici, où on joint tous les gens ensemble pour dire que nous sommes tous un seul pays, nous sommes tous dans un seul bain, une seule mentalité. En fait, les chrétiens fêtent les fêtes des musulmans et les musulmans sont joyeux par les fêtes des chrétiens sans être chrétiens, sans être musulmans.
Et l'on revient à Beyrouth, à l'hôpital du Rosaire, près du port, qui a été fortement touché par l'explosion du 4 août 2020. Sa directrice, Sœur Nicolas, fait la liste des difficultés quotidiennes.
Chaque jour, nous sommes confrontés à des grandes difficultés sur plusieurs niveaux. Instabilité politique, comme vous savez, effondrement économique, épidémie de Covid-19, qui s'est accentuée maintenant dans ces jours-là. Pénurie d'électricité seulement 2 heures par 24 heures. Augmentation du coût du carburant pour les groupes électrogènes. C'est toujours marché noir. Augmentation du coût d'hospitalisation devenue inabordable pour la majorité de la population. Immigration des médecins et infirmières. Et pénurie et absence de nombreux médicaments essentiels.
Donc aujourd'hui, à l'hôpital, il y a combien d'effectifs qui sont partis ?
Oui, il y a une dizaine d'infirmières et il y a une quinzaine de médecins, à peu près. Je parle de l'hôpital des Sœurs du Rosaire.
Quel est votre espoir avant Noël?
Oui. Moi, j'ai toujours dit qu'on ne peut pas vivre sans avoir espoir et sans avoir le bon Dieu avec chaque personne. Et surtout avant Noël. On vit cet espoir, peut-être ça ne va pas changer la situation, mais ça va nous donner la grâce de bien supporter la situation avec amitié, avec amour, avec tout le monde.
Et sur cette tentation du départ, vous avez rencontré Laurence Faure, Marianne Haddad, qui est professeure d'université à Beyrouth en pharmacologie. Alors on la sent effectivement très, on va l'entendre, très tiraillée.
Très partagée, oui.
Oui.
Sur cette question de partir ou rester, beaucoup de Libanais, en effet, semblaient, en tout cas de Libanais que j'ai pu rencontrer, semblaient y réfléchir et avoir une forme en fait, de culpabilité pour certains de vouloir partir ou de tenter de partir, parce qu'il y a évidemment un attachement extrêmement fort au pays, surtout dans la situation actuelle.
Marianne, donc, rencontrée dans un café de Beyrouth.
Il y a beaucoup d'enseignants qui ont déjà soit des projets de partir, soit qui sont déjà partis. Et puis en ce qui concerne les étudiants, eh bien les étudiants ont cette angoisse de terminer, de ne pas trouver un boulot, ou bien de partir dès maintenant pour faire une équivalence ailleurs, pour essayer d'avoir un avenir qui soit un peu stable, quoi.
Quel est un peu votre espoir pour l'avenir du Liban ?
Pour moi, l'espérance, c'est vraiment en Dieu et pas dans les humains. Parce que pour nous, on n'a pas vraiment d'espoir, ni dans les politiciens, ni dans... Donc, pour nous, l'espoir, c'est que le Seigneur nous donne une joie et une espérance d'en haut, et puis qu'il nous aide à retrouver et à comprendre et à faire sa volonté.
Partir ou rester, vous vous êtes posé la question ?
Oui, bien sûr. Chaque Libanais aujourd'hui pose cette même question. Après, il reste s'il peut ou il ne peut pas le faire. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, il y a la question de mission. De mission de rester dans ce pays, de témoigner, de ne pas quitter ce pays-là, ou bien de laisser passer, parce qu'il y a également d'autres responsabilités, surtout quand il y a une famille.
Rester ou partir, on retrouve ces deux positions, ces tiraillements chez Roy et Vanessa, deux jeunes bénévoles de la société de Saint-Vincent-de-Paul. Roy a une situation plutôt privilégiée, il a un travail. Déguisé en Père Noël, il dit comment précisément il voit cette période.
Difficile. Il va être difficile, surtout pour les familles moyennes qui sont devenues pauvres. Mais on est en train toujours de travailler, de vivre la réalité de Noël. Moi, je suis un peu un responsable pour les jeunes. Je leur dis, nous avons la chance maintenant de vivre la réalité de Noël. Jésus est venu, il n'avait rien. Il était dans une crèche, il n'avait rien. Il est la vie et il nous donne l'espoir pour continuer, même malgré toutes les conséquences, les circonstances qu'on passe. Il y a toujours l'espoir dans Dieu. Et c'est le seul espoir pour nous, car au Liban spécialement, seulement on a l'espoir de Dieu qui nous donne que la vie va continuer.
Est-ce que tu as pensé à partir, à quitter le Liban?
Oui. Malheureusement.
Toi aussi?
Moi, je suis exceptionnel.
Oui. Tu t'appelles comment?
Je m'appelle Vanessa. Ici, il n'y a rien. Même les éducations ici, c'est vraiment difficile. Je suis à l'université libanaise et encore, mon université n'a pas encore commencé. Alors qu'on est au midi de l'an.
Et pourquoi vous restez?
On reste car maintenant on n'a pas la capacité de sortir. Parce qu'on cherche à apporter la visa et tout.
Elle cherche.
Je cherche.
Oui. Et pourquoi tu as décidé de rester?
Moi, je ne vis pas la crise économique en sa réalité. C'est pour cela que je préfère de rester au Liban. Pour supporter les autres Libanais qui n'ont pas la chance de quitter le Liban. Moi, je suis patriotique, oui. J'aime beaucoup le Liban.
Vous avez beaucoup d'amis qui veulent partir?
Qui ont parti?
Ah oui, ils sont déjà partis. Trois quarts de mes amis ils sont déjà à l'extérieur, donc il n'y a personne ici.
Roy et Vanessa, deux bénévoles de la société de Saint-Vincent-de-Paul à Beyrouth. Et l'on referme ce reportage avec les paroles de Mgr Essayant sur ce dilemme des Libanais.
L'inquiétude est une chose qui est tout à fait normale, qu'on soit inquiet pour le Liban. Le quitter, oui peut-être pour un petit temps, mais je dirais qu'on peut patienter, qu'on peut encore travailler, qu'on peut se donner la main et dans une solidarité ensemble à l'intérieur du pays, on peut encore faire quelque chose. Je dirais, restons autant que possible. Ça va passer, ça va passer. Si on est là, on peut reconstruire. Si on n'est pas là, ça deviendra un petit peu difficile. Et il faut que nous reconstruisions ensemble le pays. Donnons encore une chance.
Et c'est sur le message de Mgr Essayant que se referme ce reportage à Beyrouth et à Tripoli. Merci Laurence Faure d'avoir été notre invitée pour le commenter.
Merci à vous Geneviève.
Le père Salim Dakash et le docteur Fouad Abou Nader, deux personnalités de premier plan de la société civile libanaise, sont venus récemment à Paris tirer la sonnette d'alarme. Le père jésuite Salim Dakash, recteur de la prestigieuse université catholique Saint-Joseph de Beyrouth, cherche en effet des fonds car la crise risque à terme de fragiliser cet établissement d'excellence comme sont menacées les 330 écoles francophones du pays qui scolarisent souvent une majorité d'élèves musulmans.
Nous continuons, mais dans des moments difficiles, parce que la dévaluation a atteint les 800% à peu près. Une dévaluation de la monnaie qui signifie aussi une perte de pouvoir d'achat. Et mon problème, disons aujourd'hui, comment donner goût aux enseignants et aux administratifs de pouvoir continuer avec des salaires qui sont payés en livres libanaises et qui sont très bas. Très bas. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui touchait 3 000 euros dans le temps chez moi, équivalent libanais. en entrée de fonction, et là maintenant qui se retrouve avec 250 euros. Donc c'est invivable, invivable. Et c'est la raison pour laquelle que je suis venu ici, en France, avec une petite délégation de l'université, afin d'expliquer à nos interlocuteurs, à nos partenaires ici, qu'ils soient académiques et même politiques, les élus locaux, les régions, etc. On a fait des visites et on continue, afin de les conscientiser, de les informer et de les conscientiser et de leur demander d'aider, s'ils le peuvent.
Donc l'idée, mon père, c'est de récolter des fonds en France pour que les professeurs,
Tout à fait.
si j'ai bien compris, ne
Oui.
partent pas.
Voilà. Tout à fait, parce qu'il y a déjà des profs qui sont partis vers le Canada, vers la France, vers les pays du Golfe, parce qu'ils se retrouvent vraiment, disons, mal payés, si je peux dire, et ils ont besoin de faire quand même le nécessaire pour seconder leur famille. Et les étudiants aussi, les étudiants, il faut savoir que cette année, il y a eu des départs du Liban vers la France, elle seule, à peu près 7 000 étudiants. Oui, 7 000 étudiants qui ont commencé dans les universités françaises. Donc ça, c'est un manque pour nous. Nous avons pu quand même récupérer en ratissant large, si je peux dire, en nous ouvrant à d'autres catégories de population, de clientèle, et puis les écoles catholiques, les meilleures, si je peux dire, et les écoles de la mission laïque. Cette année, il y en a peut-être, disons, 25 à 30% qui sont venus en France. Donc c'est un manque pour nous aussi. Donc on a été, disons, dans d'autres écoles et d'autres catégories pour pouvoir les remplacer et continuer notre mission et dire aux gens que nous sommes là, nous continuons notre mission.
L'université Saint-Joseph, c'est le phare, en quelque sorte, de l'éducation d'excellence.
Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, disons, le logo de l'université, c'est l'excellence de la nation. Excellence de la nation, tout à fait. Et nous continuons dans cette optique-là. C'est pourquoi nous avons des projets, nous continuons quand même, disons, à cette excellence, à lui donner, disons, une dimension nationale et morale. Nous lançons une, dans le contexte libanais qui est difficile, qui est très varié, qui est confessionnel, etc. Surtout, disons, avec la crise politique qui est très confessionnelle, nous lançons cette année une académie de la citoyenneté, de la formation à la citoyenneté. Et là, je lance l'appel à des personnes ici ou des associations, des ONG en France qui s'intéressent, disons, à cette thématique-là, de nous aider. Parce qu'on voudrait annuellement former au moins, disons, entre 50 à 75 de nos étudiants et de nos enseignants afin qu'ils soient des cadres porteurs de la flamme de la citoyenneté selon les principes de la République. Vous voyez, le vivre ensemble de tout le monde, la démocratie, le respect de l'alternance, la relativité de la religion, si je peux dire, comme bon, ayant fonction publique, etc. Donc, à ce niveau-là, nous avons vraiment, disons, une mission autre que la mission académique, nous, depuis 1875, l'année de notre fondation, c'est d'être vraiment le ciment de la nation.
Le père Salim Dakache, recteur de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Le docteur Fouad Abounader a été auditionné au début du mois à Paris par le groupe d'études sur les chrétiens d'Orient de l'Assemblée nationale. Fondateur et président de l'ONG libanaise Naourage, qui dans un contexte de déliquescence de l'État, apporte assistance dans le domaine de la santé et de l'éducation. Médecin de formation, ancien commandant en chef durant la guerre civile des forces libanaises, il fait partie des rares décideurs qui ont un projet pour le pays. Et il regarde l'année 2022 en espérant la tenue d'élections générales, mais avant, il rappelle le vide institutionnel et l'absence d'un gouvernement.
Après 13 mois d'attente, nous avons eu un gouvernement il y a 3 mois, qui a duré durant un seul mois. Ensuite, les ministres qui dépendent du Hezbollah sont venus, ils ont demandé, ça a été un ultimatum, ou vous limogez le juge Bitar qui est responsable de l'enquête sur l'explosion du port, ou bien il n'y aura pas de réunion de gouvernement. Ce qui fait que depuis au moins 2 mois, il n'y a pas de réunion de gouvernement. Les ministres sont en train de travailler par-ci, par-là, mais il n'y a aucune décision gouvernementale jusqu'à maintenant. Donc vous voyez un peu comment la paralysie gagne à tous les niveaux de l'État libanais actuellement. Notre ONG, avec les centaines d'autres ONG qui travaillent sur le terrain, nous remplissons un rôle très important au Liban parce que finalement, les gens sont délaissés. Les responsables libanais Libanais sont insensibles à la douleur des gens. Ils font leur petite politique, ils font les tiraillements de leur petite politique et ils sont très loin de ce que les gens sentent sur le terrain.
Donc ça, c'est la situation d'urgence. Donc vous regardez plus loin, évidemment, vous regardez vers cette année 2022 où des élections générales devraient se tenir, ce qui est fondamental pour, quand même pour la suite, mais ce n'est pas sûr du tout. Hein. Vous dites très clairement que ça n'est pas sûr.
Absolument.
Vous avez un plan, vous avez des projets et que vous êtes venu présenter aux députés français, enfin à ce groupe chargé donc, des chrétiens d'Orient. Quelle est votre première demande à la France, si je puis dire, quelle est-elle?
Bon, la première chose, c'est qu'il faut vraiment que les élections aient lieu. Et parce que si on veut espérer un changement au niveau de la classe politique, c'est à travers les urnes qu'on devrait le faire. D'où l'importance de l'aide de la France et de la communauté internationale aussi pour faire la pression sur les responsables libanais qui, eux, n'ont pas du tout envie de faire des élections parce qu'ils n'ont pas envie de changer la donne. Ils sont très confortables comme ils sont. Ils ont une majorité qu'ils veulent garder. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut travailler en parallèle. C'est qu'il faut voir, trouver des solutions pour les gens. Et c'est pour cela qu'il est très important, parce qu'aujourd'hui, il y a des milliards de dollars qui sont à l'arrêt parce qu'il n'y a pas de gouvernement et parce qu'il n'y a pas une demande de l'État libanais. Mais il y a beaucoup d'argent qui attend pour rentrer au Liban. Alors, je suis venu leur dire qu'il ne faut pas attendre. Il ne faut pas passer par le gouvernement libanais. Mais il faudrait que l'ONU, peut-être, avec sous l'instigation de la France, puisse former comme une task force sociale pour sauver un peu les gens. Donc, quelqu'un serait sur place pour gérer justement cet argent qui irait directement les hôpitaux, les universités, les écoles, etc.
Pas question que l'argent arrive dans les mains de l'État actuellement.
Pas question du tout.
Ça partira dans les poches.
Absolument. Absolument. Et c'est des gens qui n'ont rien appris, qui sont très loin du code d'éthique que vous et moi peut-être partageons. C'est des gens qui n'ont plus aujourd'hui aucune sensibilité. Dans tous les cas, le dicton français « chat échaudé n'a pas peur d'être mouillé ». Voilà, ils sont déjà invectivés et insultés du matin jusqu'au soir. Ils sont vraiment aujourd'hui... Comment, ils n'ont rien à faire avec
comment
ça.
Comment vous expliquez quand même cette insensibilité, se sentir libanais, c'est pas rien quand même.
Oui. Ils ont tué cette fierté du Libanais. La fierté du Libanais qui était tellement fier et de sa diaspora, et de son niveau d'éducation, et de ses universités, et de ses écoles, du service bancaire qu'on avait. Ils ont tué tout ça. Ils ont tué, même durant la guerre, les 15 ans de guerre de 1975 à 1990, les banques travaillaient, mais vraiment très bien. Vous pouviez aller à ce moment-là à la banque, retirer autant que vous voulez, mettre autant que vous voulez. Il n'y avait jamais de retard. Et vraiment, on était très fiers de ce système. Aujourd'hui, ils l'ont tué. L'argent des Libanais aujourd'hui est bloqué dans les banques et il faut qu'ils oublient cet argent parce que cet argent ne va plus revenir.
Cela dit, vous dites, la grande erreur du Liban, ça a été d'être une économie de rente. Alors vous, ce que vous voulez à travers votre ONG, c'est précisément relancer l'économie, redonner au pays une autonomie alimentaire, puisque 80% de votre alimentation, de l'alimentation est emportée, c'est ça?
Oui, bien sûr, alimentation, autre chose. Oui. 80% de toutes nos importations sont...
Voilà. Ouais.
Oui, vous savez, quand nous sommes sortis de la guerre du Liban en 1990, nos représentants politiques nous ont dit, il y a deux options, les gars. Ou on fait la guerre, ou on se partage le gâteau et chacun fait ce qu'il veut. 30 ans après, le pays est dans une banqueroute jamais vue de par le monde. Vous savez, nous les Libanais, on aime rentrer dans le Guinness Book des records. Ben, cette fois-ci, nous sommes bien rentrés dans le livre. Voilà. Donc, personne n'a pensé qu'il pourrait y avoir une troisième voie de solution dans ce pays. Et ce que nous préconisons justement dans notre association, c'est de trouver cette troisième voie. Et nous l'avons, souligné, je l'ai souligné dans mon livre d'ailleurs.
Oui, votre livre, je rappelle, hein, « Le Liban, les défis de la liberté, le combat d'un chrétien d'Orient ». On en parlera effectivement de ce combat-là.
Donc, il y a, d'après moi, il y a une voie différente que c'est ou bien la guerre, ou bien on se partage le gâteau, on se laisse aller à la corruption. Et là, cette troisième voie, c'est justement, un, la neutralité du Liban, pour sortir le Liban de cet environnement hostile dans lequel il vit, dans lequel il est obligé parfois de laisser ses forces étrangères régionales s'immiscer dans ses affaires internes, de suivre un système de décentralisation ou de régionalisation à l'italienne. Et trois, c'est dans le code civil, unifier le statut personnel dans le code civil pour ne pas que les Libanais continuent à vivre uniquement au niveau de leur communauté, qu'ils s'ouvrent et que ces communautés puissent fusionner tous ensemble pour faire un citoyen libanais.
Mais ça, on l'a vu il y a 2 ans dans la rue. Il y a beaucoup de jeunes qui demandaient ça, qui demandent ça.
Oui, bien sûr. Les jeunes ont compris ce message et je crois que c'est ce qui me donne un peu chaud au cœur, c'est que les jeunes ont compris ce que les adultes n'ont pas encore compris.
C'est-à-dire que ce que les jeunes veulent, veulent, par exemple, s'ils veulent se marier, eh bien, qu'ils puissent se marier civilement déjà.
Absolument.
Pas aller à Chypre pour aller se marier.
Absolument, absolument. Il y a des milliers qui vont à Chypre chaque année, milliers.
Voilà, donc ce qu'ils veulent, c'est un statut, en fait, c'est la citoyenneté. Être citoyen libanais et ensuite être chrétien, chiite, etc.
On ne peut créer le citoyen libanais que s'il y a cette fusion et que les gens soient libérés de ce carcan communautaire.
La demande est majoritaire. Est-ce que vous sentez que le peuple libanais est prêt à cela? Là, on parlait des jeunes. Pas vraiment, c'est ça le problème.
Pas vraiment. Les jeunes, certains jeunes, oui, mais encore, il faut travailler sur ça.
Alors, ça veut dire effectivement qu'aujourd'hui, au Liban, on divorce selon sa communauté.
Oui. Hein,
donc, alors, par exemple,
l'héritage, la garde des enfants.
Voilà, tout. Oui. Ça veut dire, par exemple, ça vous citiez cela, je crois, dans votre livre ou dans un article. Par exemple, un chiite, une femme chiite pourra hériter.
Pas un sunnite.
Ça, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué.
Eh oui.
Ce qui est intéressant, ce que vous avez dû dire aux députés, que vous avez écrit dans votre livre, docteur Fouad Abou Nader, c'est que. Les chrétiens peuvent vivre partout, dans n'importe quel village. En revanche, il y a des villages où, effectivement, sunnites, chiites, c'est compliqué.
Oui, la plupart des villages mixtes sont chrétiens, sunnites, chrétiens, chiites ou chrétiens druzes. Vous trouverez très rarement, pour laisser un peu, parce que l'exception confirme la règle, un village où il y aurait une mixité entre les sunnites et les chiites. Il n'y a presque pas.
Presque pas.
Et entre druzes et sunnites, druzes et chiites, presque pas aussi.
Donc,
voilà, donc le chrétien, c'est le seul qui arrive à vivre avec tout le monde.
Et justement, cette sauvegarde du modèle libanais, ce n'est pas la défense des chrétiens pour la défense des chrétiens. C'est d'abord parce qu'ils ont leur place historique et qu'aussi, ils sont une chance pour la région, pour le pays.
Absolument. Premièrement, pour le pays, parce que les chrétiens sont un peu le ciment de ce pays, sont le pont entre les différentes communautés. D'ailleurs, en 2014, quand il y a eu un grand clash entre l'armée libanaise et Daesh dans le nord-est du Liban, dans un village sunnite, et il y a eu ensuite des kidnappings, je vous passe les détails, entre sunnites et chiites libanais. L'échange s'est fait dans un village qui s'appelle Ras Balbek, qui n'a rien à voir avec la ville de Balbek, qui est un village chrétien, parce que nous étions derrière le maire qui a, lui, travaillé pour faire justement les connexions avec l'armée libanaise. Et l'échange s'est fait dans un village chrétien. Donc ça vous donne un peu une idée de l'importance de ces chrétiens pour le Liban. Et deuxièmement, l'importance du chrétien au niveau... ce chrétien qui vit avec le musulman depuis des centaines d'années a créé dans l'absolu une culture de l'acceptation de l'autre qui n'existe pas par ailleurs dans les autres pays arabes. Ce qui fait que c'est très important, il faut comprendre surtout que l'Européen comprenne que la présence des chrétiens au Liban et au Moyen-Orient est une barrière naturelle contre l'extension de l'extrémisme vers l'Europe. Et c'est une garantie pour justement garder cette diversité dans le Moyen-Orient. Sinon, on aura un grand espace géographique avec une seule religion. Et cette religion seulement va s'identifier par ce qui est le plus extrémiste et le plus demandeur.
Et ce que vous dites très clairement aussi, c'est que ce qui arrive aux chrétiens en Irak, en Syrie ou ailleurs, vous concerne.
Bien sûr, beaucoup.
C'est pour ça d'ailleurs que vous avez créé une assemblée.
L'Assemblée des chrétiens d'Orient en 2010 aussi. Ça regroupe les 13 églises du Moyen-Orient. Et nous avons beaucoup travaillé pour créer un espace commun pour tous les chrétiens qui vont de l'Égypte ou même du Maghreb jusqu'en Iran et Turquie pour justement qu'ils puissent rester, débattre ensemble et s'entraider dans tout ce qui est constitution intérieure dans les pays déterminés ou bien le lobby à l'extérieur ou bien les aides économiques et sociales.
C'était le docteur Fouad Abou Nader.
La guerre est un fécond spectacle. Lors d'un des assauts journaliers, j'avais gardé d'une débâcle des traumatismes singuliers. Et, soldat servant au génie, je déchiffrais de ce tombeau la passionnante agonie de l'urbain, de l'homme et du beau. Néant de rues et de façades, c'était un monde bien fini, jet de flammes et de grenades d'un ennemi indéfini, et des lumières effrayantes, comme une pluie de gaz létal, s'anéantissaient, foudroyantes, sur les couloirs d'un hôpital. Non loin, sous une barricade, un sniper caché respirait, dont la soudaine fusillade sur une cible déflagrait.
Vincent Gelot, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre un extrait de votre livre de poèmes, Nos fleurs du mal, publié aux éditions La Martinière et magnifiquement illustré par Edmond Baudouin. Vincent Jolot, vous êtes responsable de projet pour la région Liban-Syrie, pour l'œuvre d'Orient. Vous avez écrit il y a quelques années un livre, Périple au cœur d'un monde menacé. C'était donc un livre sur les chrétiens d'Orient, chez Albin Michel. Vous aviez visité 22 pays où vous alliez effectivement à la rencontre de cette petite communauté chrétienne menacée. Donc, depuis quelques années, vous êtes au Liban et en Syrie. On ne vous connaissait pas, poète. Pourquoi avoir écrit ces poèmes? Est-ce que c'est une façon d'expurger en quelque sorte tout ce que vous voyez, cette immense souffrance, notamment en Syrie, on va en parler. Est-ce que c'est une façon précisément de tenir le coup?
Alors tout d'abord, la poésie m'a toujours accompagné ces dernières années. Lorsque j'ai fait mon voyage à la rencontre de ces communautés chrétiennes, j'avais dans ma voiture, dans le coffre de ma 4L, une petite malle de livres où il y avait quasiment que des livres de poésie. Ça m'a accompagné et ça m'accompagne encore quand je me rends dans ces pays-là, quand je voyage, parce que la poésie m'offre un jardin de beauté, un petit îlot qui me rassure, notamment quand je traverse des villes absolument anéanties ou détruites, comme c'est le cas en Syrie. Le travail auprès des fleurs du mal a servi de thérapie et d'exutoire, parce que l'Orient est un lieu où l'expression du mal se fait dans sa toute plénitude, dans sa force,
puissance.
Sa puissance. Il faut voir ces villes, ces métropoles détruites en Syrie, ces routes ravagées, la souffrance qui pèse sur ces populations, qui est pleine, qui est totale. Et donc, c'est cette expression-là qui m'a amené vers les fleurs du mal, qui pourtant avait traversé ma vie d'étudiant quand j'étais plus jeune et qui ne m'avait pas forcément interpellé. Et c'est véritablement à ce moment-là, qu'il y a 4 ans, que ce travail a démarré.
Là, nous avons entendu un poème Vincent Jolot sur la Syrie. Il y en a d'autres, non seulement sur le Proche-Orient, beaucoup même, mais aussi il y a d'autres poèmes concernant l'homme contemporain en Occident.
Tout à fait. En fait, j'ai voulu suivre la tradition poétique, la voie de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, c'est-à-dire d'extraire le mal de la beauté et de descendre dans les fins fonds de l'âme humaine pour en explorer les zones d'ombre et de lumière. Et donc, j'ai tenté à travers ces variations contemporaines des fleurs du mal, en reprenant un à un chacun des poèmes, d'explorer les petits et grands mots de la modernité.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes à la fois un homme de terrain, hein, puisque vous êtes chef de projet, je le disais au début de notre rencontre, chef de projet pour le Liban et la Syrie, c'est-à-dire que vous allez régulièrement en Syrie pour essayer de venir en aide à des communautés chrétiennes, mais aussi musulmanes. Enfin, je veux dire, l'œuvre d'Orient, c'est pour tout le monde. Vous arrivez à concilier les deux, la poésie et puis le concret, le terrain.
En fait, ce livre, c'est l'aboutissement de 4 ans de vie nocturne. Parce que dans la journée, je n'avais pas le temps d'écrire.
Vous êtes père de famille
et
aussi.
Je suis père de famille aussi, j'habite au Moyen-Orient. Donc pour moi, c'est un engagement total, un engagement familial et personnel. Et donc, tout ce travail-là s'est fait la nuit, durant 4 années. Et c'est là où j'ai pu un peu coucher sur le papier tout cela, tout ce que je portais, et à travers ces voyages en Orient, mais aussi à travers ce que je pouvais observer de loin en Occident, qui est un mal plus insidieux, peut-être, que celui que l'on peut observer en Orient. Et donc voilà un peu le fruit de tout cela.
Alors revenons à la Syrie. Vous êtes allé tout récemment en Syrie, à Homs, enfin dans toutes les villes que nous connaissons, Damas, Alep. La situation que vous m'avez décrite est catastrophique. Il y a 2 ans, 1 an je me souviens, vous m'aviez dit ça va de mal en pis. On ne parle plus de la Syrie.
Écoutez, c'est bien simple. Moi, ça fait 5 ans que je vais en Syrie à peu près tous les 2 mois depuis le Liban où j'habite. À chaque fois que j'y vais, j'espère toujours que ça va être un peu mieux. Et à chaque fois que j'y vais, c'est toujours un peu pire. Depuis 5 ans, c'est la pire situation que je n'ai jamais vue, même sous les bombardements. Et là, je me fais le relais des habitants de Syrie, la situation est pire. Et c'est les gens qui le disent, les Syriens qui le disent, que lorsqu'il y avait les bombardements. C'est-à-dire que la situation économique est catastrophique. On a aujourd'hui presque 90% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Le pays est en ruine. On traverse, quand on va en Syrie, des morceaux de métropoles anéanties, des gens qui habitent dans des ruines qui ne sont pas reconstruites. Il n'y a pas de plan Marshall de reconstruction en Syrie. Et on est en effet dans un pays qui est sous sanctions internationales, les sanctions américaines et de l'Union européenne. Donc concrètement, ça veut dire que les gens n'ont pas de pain pour se nourrir, doivent faire des files d'attente pour avoir un peu de gaz, qu'il n'y a pas de mazout pour se chauffer et qu'il n'y a pas d'électricité. Là, quand j'y suis allé, les gens sont plongés dans le noir. Faut imaginer ce que ça peut être de vivre sans électricité. Aujourd'hui, c'est pas seulement pas de lumière, ça veut dire, je sais pas de frigo, enfin rien ne fonctionne. À partir de 4h30 de l'après-midi, quand il fait nuit, on ne voit plus rien. Les villes sont plongées dans le noir. Et c'est une population en plus qui est traumatisée, qui a vécu sous les bombes. Et moi, je suis frappé, c'est quelque chose dont on ne parle pas du tout, mais des cas de cancer et de maladies qui se sont déclarés chez quasiment toutes les familles syriennes. Et moi, ce qui me chagrine le plus dans cette histoire-là, c'est que depuis le Covid notamment, on ne parle plus du tout de la Syrie. C'est comme si ce pays n'existait plus. On a l'impression que demain, si ce pays disparaissait de la carte, on s'en rendrait même pas compte. On a faim en silence parce que personne n'en parle. Le pays est sorti des radars médiatiques. Il faudrait qu'il y ait des bombes qui retombent pour qu'on en parle. Et on meurt en silence parce que les gens ne peuvent pas nommer leurs maux. On est dans un pays qui est harassé, écrasé. Et en fait, les gens ne peuvent plus et n'ont plus la force, ni les moyens, ni même l'envie de se soulever encore.
Il n'y a pas des pro-Assad et des anti-Assad. On est sorti complètement de ce schéma, Vincent Jolot ?
Oui. Vraiment, oui, c'est ce schéma de pro-régime, anti-régime qui est un discours qu'on entend encore aujourd'hui.
C'est occidental comme discours, ça.
Aujourd'hui, en Syrie, il est complètement hors de propos. C'est-à-dire qu'en dehors de la poche d'Idlib, qui reste encore une poche, en effet, qui combat le régime d'Assad, en dehors de la présence turque au nord et des problèmes avec les Kurdes dans le nord-est syrien, si dans le reste du pays, qui est à 70% contrôlé par le régime de Damas, il n'y a plus cette histoire de pro et de anti, parce qu'en fait, les gens vivent tous sous le même régime. Ceux qui se sont soulevés, soit ils sont partis, soit ils sont morts, soit ils sont là, mais ils se taisent. Et en fait, et les autres vivent là, mais tous ces gens-là vivent dans une égale misère. Donc en fait, on est dans un cas où, si vous voulez, tout le monde souffre. Et en fait, on a parfois le sentiment qu'on ne veut pas parler des souffrances des populations de cette partie-là de la Syrie, parce qu'elle serait soupçonnée d'être favorable au gouvernement qui est un gouvernement autoritaire, qui les écrase. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les Syriens sont des gens très pudiques, qui ont appris à vivre dans le silence et de ne pas dire leurs mots. Mais aujourd'hui, la situation est telle que les gens le savent et le disent très bien. Aujourd'hui, ils savent d'où viennent leurs mots. Alors, il y a les sanctions, mais il y a aussi la responsabilité de leur gouvernement. Et aujourd'hui, les gens souffrent, les gens sont écrasés, mais ça ne sort pas, ça ne parle pas. Et ça, c'est une souffrance pour eux aussi de taire tout cela.
C'est toujours la double peine des populations qui payent pour le régime. C'est-à-dire qu'en fait, les sanctions sont censées infliger des peines au régime, mais en fait, c'est à la population que ces sanctions vont.
Écoutez, avec l'Œuvre d'Orient et notre directeur général, Mgr Pascal Gollnisch, on demande haut et fort à ce que les États, et notamment l'Union européenne, cessent cette politique de sanctions sur la Syrie qui impacte directement ou indirectement le peuple syrien en général. Ce n'est pas Bachar el-Assad dans son palais présidentiel qui souffre des sanctions. Et deuxièmement, ces sanctions favorisent le marché informel.
Et la mafia.
Et la mafia qui est aux mains des mêmes personnes. Donc c'est absurde. L'histoire prouve, on l'a vu sous la dictature de Saddam Hussein dans les années 90, que cette politique de sanctions ne marche pas et ne fait même que souder la population entre elles avec leur gouvernement, et ça permet au gouvernement d'avoir une politique de démagogie en mettant la responsabilité de tous leurs maux sur celle des sanctions. Donc c'est absolument pas constructif, et je dirais même qu'aujourd'hui, au lieu de sanctionner ce pays, il faudrait trouver des canaux d'aide pour soutenir directement la population.
Je vous remercie, Vincent Jolot. Donc je rappelle le titre de votre livre, et on comprend à travers ces poèmes la situation en Syrie, Nos fleurs du mal, publié aux éditions de La Martinière. Merci pour votre témoignage. Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Véronique Durand, Ludivine Amado vous donnent rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.
La marche du monde.